Chapitre 3. Par l'influence du feuilleton que rédigeait vers nous l'un des amis de Bixiou, de Finot et de Giroudeau, Mariette débuta non pas au Panorama dramatique, mais à la Porte Saint-Martin, où elle eut du succès à côté de l'abbé Grand. Parmi les directeurs de ce théâtre se trouvait alors un riche et fastueux officier général, amoureux d'une actrice et qui s'était fait impresario pour elle. À Paris, il se rencontre toujours des gens épris d'actrices, de danseuses ou de cantatrices qui se mettent directeurs de théâtre par amour. Cet officier général connaissait Philippe et Giroudeau. Le petit journal de Finot et celui de Philippe y aidant, le début de Mariette fut une affaire d'autant plus promptement arrangée entre les trois officiers qu'il semble que les passions soient toutes solidaires en fait de folie. Le malicieux Bixiou apprit bientôt à sa grand-mère et à la dévote Agathe que le caissier Philippe, le brave des braves, aimait Mariette, la célèbre danseuse de la Porte Saint-Martin. Cette vieille nouvelle fut comme un coup de foudre pour les deux veuves. D'abord, les sentiments religieux d'Agathe lui faisaient regarder les femmes de théâtre comme des tisons d'enfer, puis il leur semblait à toutes deux que ces femmes vivaient d'or, buvaient des perles et ruinaient les plus grandes fortunes. « Eh bien, dit Joseph à sa mère, croyez-vous que mon frère soit assez imbécile pour donner de l'argent à sa Mariette? Ces femmes-là ne ruinent que les riches. » On parle déjà d'engager Mariette à l'opéra, dit Bixiou. Mais n'ayez pas peur, madame Bridau, le corps diplomatique se montre à la Porte Saint-Martin. Cette belle fille ne sera pas longtemps avec votre fils. On parle d'un ambassadeur, amoureux fou de Mariette. Autre nouvelle, le père Claparon est mort, on l'enterre demain, et son fils devenu banquier, qui roule sur l'or et sur l'argent, a commandé un convoi de dernière classe. Oh, ces garçons manquent d'éducation. Ça ne se passe pas ainsi en Chine. Philippe proposa dans une pensée cupide à la danseuse de l'épouser. Mais à la veille d'entrer à l'opéra, mademoiselle Godeschal le refusa. Soit qu'elle eût deviné les intentions du colonel, soit qu'elle eût compris combien son indépendance était nécessaire à sa fortune. Pendant le reste de cette année, Philippe vint tout au plus voir sa mère deux fois par mois. Où était-il ? À sa caisse, au théâtre ou chez Mariette. Aucune lumière sur sa conduite ne transpira dans le ménage de la rue Mazarine. Giroudeau, Finot, Bixiou, Vernou, Lousteau lui voyaient mener une vie de plaisir. Et Philippe était de toutes les parties de Tulliard, l'un des premiers sujets de l'opéra, de Florentine qui remplaça Mariette, à la Porte Saint-Martin, de Florine et de Matifa, de Coralie et de Camusot. À partir de 4 heures, au moment où il quittait sa caisse, il s'amusait jusqu'à minuit. Car il y avait toujours une partie de liée la veille, un bon dîner donné par quelqu'un, une soirée de jeu, un souper. Philippe vécut alors comme dans son élément. Ce carnaval, qui dura 18 mois, n'alla pas sans souci. La belle Mariette, lors de son début à l'opéra en janvier 1821, soumit à sa loi l'un des ducs les plus brillants de la cour de Louis XVIII. Philippe essaya de lutter contre le duc, mais malgré quelques bonheurs au jeu, au renouvellement du mois d'avril, il fut obligé, par sa passion, de puiser dans la caisse du journal. Au mois de mai, il devait 11 000 francs. Dans ce mois fatal, Mariette partit pour Londres y exploiter les lords pendant le temps qu'on bâtissait la salle provisoire de l'opéra dans l'hôtel Choiseul, rue Le Pelletier. Le malheureux Philippe en était arrivé, comme cela se pratique, à aimer Mariette malgré ses patentes infidélités. Mais elle n'avait jamais vu dans ce garçon qu'un militaire brutal et sans esprit, un premier échelon sur lequel elle ne voulait pas longtemps rester. Aussi, prévoyant le moment où Philippe n'aurait plus d'argent, la danseuse avait-elle su conquérir des appuis dans le journalisme qui la dispensait de conserver Philippe. Néanmoins, elle eut la reconnaissance particulière à ces sortes de femmes pour celui qui le premier leur a pour ainsi dire aplani les difficultés de l'horrible carrière du théâtre. Forcé de laisser aller sa terrible maîtresse à Londres sans l'y suivre, Philippe reprit ses quartiers d'hiver, pour employer ses expressions, et revint rue Mazarine dans sa mansarde. Il y fit de sombres réflexions en se couchant et en se levant. Il sentit en lui-même l'impossibilité de vivre autrement qu'il n'avait vécu depuis un an. Le luxe qui régnait chez Mariette, les dîners et les soupers, la soirée dans les coulisses, l'entrain des gens d'esprit et des journalistes, l'espèce de bruit qui se faisait autour de lui, toutes les caresses qui en résultaient pour les sens et pour la vanité, cette vie qui ne se trouve d'ailleurs qu'à Paris et qui offre chaque jour quelque chose de neuf, était devenue plus qu'une habitude pour Philippe. Elle constituait une nécessité comme son tabac et ses petits verres. Aussi reconnut-il qu'il ne pouvait pas vivre dans ses continuelles jouissances. L'idée du suicide lui passa par la tête, non pas à cause du déficit qu'on allait reconnaître dans sa caisse, mais à cause de l'impossibilité de vivre avec Mariette et dans l'atmosphère de plaisir où il se chafriolait depuis un an. Plein de ses sombres idées, il vint pour la première fois dans l'atelier de son frère qu'il trouva travaillant, en blouse bleue, à copier un tableau pour un marchand. « Ben, sinon comment se font les tableaux ?» dit Philippe pour entrer en matière. « Oh non, répondit Joseph, mais voilà comment il se copie. Combien on te paye pour cela ?» « Oh, jamais assez, 250 francs. Mais j'étudie la manière des maîtres. J'y gagne de l'instruction. Je surprends les secrets du métier. Voilà l'un de mes tableaux, » lui dit-il en lui indiquant du bout de sa brosse une esquisse dont les couleurs étaient encore humides. « Et que mets-tu dans ton sac par année maintenant ?» Malheureusement, je ne suis encore connu que des peintres. Je suis appuyé sur Schinner qui doit me procurer des travaux au château de Presles où j'irai vers octobre, faire des arabesques, des encadrements, des ornements très bien payés par le comte de Sérisy. Avec ces brocantes-là, avec les commandes des marchands, je pourrais désormais faire 1800 à 2000 francs, tout frais payés. Bah, à l'exposition prochaine, je présenterai ce tableau-là. S'il est goûté, mon affaire sera faite. Mes amis en sont contents. Je ne m'y connais pas, dit Philippe d'une voix douce, qui força Joseph à le regarder. Qu'as-tu ? Demanda l'artiste en trouvant son frère pâli. Je voudrais savoir en combien de temps tu ferais mon portrait. Mais en travaillant toujours, si le temps est clair, en 3 ou 4 jours, j'aurai fini. Oh, c'est trop de temps, je n'ai que la journée à te donner. Ma pauvre mère, en même temps que je voulais lui laisser ma ressemblance, n'en parlons plus. Eh bien, est-ce que tu t'en vas encore ? « Je m'en vais pour ne plus revenir, » dit Philippe d'un air faussement gai. « Oh, ça, Philippe, mon ami, qu'as-tu ? Si c'est quelque chose de grave, Je suis un homme, je ne suis pas un niais. Je m'apprête à de rudes combats, et s'il faut de la discrétion, j'en aurai. Mais sûr, assure mon honneur, tu ne diras rien à qui que ce soit au monde, à personne. Eh bien, je vais me brûler la cervelle. Toi, tu vas donc te battre? Non, je vais me tuer. Et pourquoi? J'ai pris 11 000 francs dans ma caisse. Et je dois rendre mes comptes demain. Mon cautionnement sera diminué de moitié. Notre pauvre mère sera réduite à 600 francs de rente. Ça, ce n'est rien, je pourrais lui rendre plus tard une fortune, mais je suis déshonoré. Je ne veux pas vivre dans le déshonneur. Tu ne seras pas déshonoré pour avoir restitué, mais tu perdras ta place. Il ne te restera plus que les 500 francs de ta croix, et avec 500 francs, on peut vivre. Adieu, dit Philippe, qui descendit rapidement et ne voulut point rien entendre. Joseph quitta son atelier et descendit chez sa mère pour déjeuner. Mais la confidence de Philippe lui avait ôté l'appétit. Il prit la Descoings à part et lui dit l'affreuse nouvelle. La vieille femme fit une épouvantable exclamation, laissa tomber un poids lourd de lait qu'elle avait à la main et se jeta sur une chaise. Agathe accourut. Et d'exclamations en exclamations, la fatale vérité fut avouée à la mère. Lui, manqué à l'honneur, le fils de Brideau, prendre dans la caisse qui lui est confiée. La veuve trembla de tous ses membres, ses yeux s'agrandirent, devinrent fixes, elle s'assit et fondit en larmes. Où est-il ? S'écria-t-elle au milieu de ses sanglots. Peut-être s'est-il jeté dans la Seine ? Il ne faut pas vous désespérer, dit la Descoings, parce que le pauvre garçon a rencontré une mauvaise femme et qu'elle lui a fait faire des folies. Mon Dieu, cela se voit souvent. Philippe a eu jusqu'à son retour tant d'infortunes, et il a su si peu d'occasions d'être heureux et aimé qu'il ne faut pas s'étonner de sa passion pour cette créature. Toutes les passions mènent à des excès. J'ai dans ma vie un reproche de ce genre à me faire. Je me crois cependant une honnête femme. Une seule faute ne fait pas le vice. Et puis après tout, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Le désespoir d'Agathe l'accablait tellement que la Descoings et Joseph furent obligés de diminuer la faute de Philippe en lui disant que dans toutes les familles il arrivait de ces sortes d'affaires. « Mais il a 28 ans !» s'écriait Agathe, « et ce n'est plus un enfant !» Mot terrible et qui révèle combien la pauvre femme pensait à la conduite de son fils. « Mais ma mère, je t'assure qu'il ne songeait qu'à ta peine et au tort qu'il te fait, » lui dit Joseph. « Oh, mon Dieu, qu'il revienne, qu'il vive, et je lui pardonne tout !» s'écria la pauvre mère, à l'esprit de laquelle s'offrit l'horrible tableau de Philippe retiré mort de l'eau. Un sombre silence régna pendant quelque temps. La journée se passa dans les plus cruelles alternatives. Tous les trois, ils s'élançaient à la fenêtre du salon au moindre bruit et se livraient à une foule de conjectures. Pendant le temps où sa famille se désolait, Philippe mettait tranquillement tout en ordre à sa caisse. Il eut l'audace de rendre ses comptes en disant que, craignant quelque malheur, il avait les 11 000 francs chez lui. Le drôle sortit à 4 heures, en prenant 500 francs de plus à sa caisse, et monta froidement au jeu où il n'était pas allé depuis qu'il occupait sa place, car il avait bien compris qu'un caissier ne peut pas hanter les maisons de jeu. Ce garçon ne manquait pas de calcul. Sa conduite postérieure prouvera d'ailleurs qu'il tenait plus de son aïeul Rouget que de son vertueux père. Peut-être eût-il fait un bon général, mais dans sa vie privée, il fut un de ces profonds scélérats qui abritent leurs entreprises et leurs mauvaises actions derrière le paravent de la légalité et sous le toit discret de la famille. Philippe garda tout son sang-froid dans cette suprême entreprise. Il gagna d'abord et alla jusqu'à une masse de 6 000 francs. Mais il se laissa éblouir par le désir de terminer son incertitude d'un coup. Il quitta le 30 et 40 en apprenant qu'à la roulette, la noire venait de passer 16 fois. Il alla jouer 5 000 francs sur la rouge et la noire sortit encore une 17e fois. Le colonel mit alors son billet de 1 000 francs sur la noire et il gagna. Malgré cette étonnante entente du hasard, il avait la tête fatiguée. Et quoiqu'il le sentît, il voulut continuer. Mais le sens divinatoire qu'écoutent les joueurs et qui précède par éclair était altéré déjà. Vers des intermittences qui sont la perte des joueurs. La lucidité, de même que les rayons du soleil, n'a d'effet que par la fixité de la ligne droite, elle ne devine qu'à la condition de ne pas rompre son regard. Elle se trouble dans les sautillements de la chance. Philippe perdit tout. Après de si fortes épreuves, l'âme la plus insouciante comme la plus intrépide s'affaisse. Aussi, en revenant chez lui, Philippe pensait-il d'autant moins à sa promesse de suicide qu'il n'avait jamais voulu se tuer. Il ne songeait plus ni à sa place perdue, ni à son cautionnement entamé, ni à sa mère, ni à Mariette, la cause de sa ruine. Il allait machinalement. Quand il entra, sa mère en pleurs, la Descoings et son frère lui sautèrent au cou, l'embrassèrent et le portèrent avec joie au coin du feu. « Tiens, pensa-t-il, l'annonce a fait son effet. » Ce monstre prit alors d'autant mieux une figure de circonstance que la séance au jeu l'avait profondément ému. En voyant son atroce Benjamin pâle et défait, la pauvre mère se mit à ses genoux, lui baisa les mains, se les mit sur le cœur et le regarda longtemps les yeux pleins de larmes. « Philippe, lui dit-elle d'une voix étouffée, promets-moi de ne pas te tuer, nous oublierons tout. » Philippe regarda son frère attendri, la Descoings qui avait la larme à l'œil, et il se dit à lui-même, « Oh, c'est de bonnes gens. » Il prit alors sa mère, la releva, l'assit sur ses genoux, la pressa sur son cœur et lui dit à l'oreille en l'embrassant, « Ah, tu me donnes une seconde fois la vie. » La Descoings trouva le moyen de servir un excellent dîner, d'y joindre 2 bouteilles de vieux vin et un peu de liqueur des îles, trésor provenant de son ancien fonds. « Agathe, il faut lui laisser fumer ses cigares, » dit-elle au dessert, et elle offrit des cigares à Philippe. Les deux pauvres créatures avaient imaginé qu'en laissant prendre toutes ses aises à ce garçon, il aimerait la maison et s'y tiendrait. Et toutes deux essayèrent de s'habituer à la fumée du tabac qu'elles exécraient. Cet immense sacrifice ne fut pas même aperçu par Philippe. Le lendemain, Agathe avait vieilli de 10 années. Une fois ses inquiétudes calmées, la réflexion vint, et la pauvre femme ne put fermer l'œil pendant cette horrible nuit. Elle allait être réduite à 600 francs de rente. Comme toutes les femmes grasses et blondes, friandes, la Descoings, douée d'une toux catara, opiniâtre, devenait lourde. Son pas dans les escaliers retentissait comme des coups de bûche. Elle pouvait donc mourir de moment en moment. Avec elle, disparaîtraient 4 000 francs. N'était-il pas ridicule de compter sur cette ressource? Mais que faire? Que devenir? Décidée à se mettre à garder les malades plutôt que d'être à charge à ses enfants, Agathe ne songeait pas à elle. Mais que ferait Philippe, réduit aux 500 francs de sa croix d'officier de la Légion d'honneur? Depuis 11 ans, la Descoings, en donnant 1 000 écus chaque année, avait payé presque 2 fois sa dette et continuait à immoler les intérêts de son petit-fils à ceux de la famille Brideau. Quoique tous les sentiments probes et rigoureux d'Agathe fussent froissés au milieu de ce désastre horrible, elle se disait « Pauvre garçon, est-ce sa faute? Il est fidèle à ses serments. Moi, j'ai eu tort de ne pas le marier. Si je lui avais trouvé une femme, il ne serait pas lié qu'avec cette danseuse. Il est si fortement constitué. » La vieille commerçante avait aussi réfléchi pendant la nuit à la manière de sauver l'honneur de la famille. Au jour, elle quitta son lit et vint dans la chambre de son amie. « Ce n'est ni à vous ni à Philippe à traiter cette affaire délicate, lui dit-elle. Si nos deux vieux amis, Claparon et Lugruel, sont morts, il nous reste le père Desroches, qui a une bonne judiciaire, et je vais aller chez lui ce matin. Desroches dira que Philippe a été victime de sa confiance dans un ami, que sa faiblesse en ce genre le rend tout à fait impropre à gérer une caisse. Ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait recommencer. Philippe leur préférera donner sa démission. Il ne sera donc pas renvoyé. » Agathe, en voyant par ce mensonge officieux l'honneur de son fils mis à couvert, au moins aux yeux des étrangers, embrassa la Descoings, qui sortit arranger cette horrible affaire. Philippe, lui, avait dormi du sommeil des justes. « Elle est rusée, la vieille, » dit-il en souriant, quand Agathe apprit à son fils pourquoi leur déjeuner était retardé. Le vieux Desroches, le dernier ami de ces deux pauvres femmes, et qui, malgré la dureté de son caractère, se souvenait toujours d'avoir été placé par Brideau, s'acquitta en diplomate consommé de la mission délicate que lui confia la Descoings. Il vint dîner avec la famille, avertir Agathe d'aller signer le lendemain au trésor rue Vivienne le transfert de la partie de la rente vendue et de retirer le coupon de 600 francs qui lui restait. Le vieil employé ne quitta pas cette maison désolée sans avoir obtenu de Philippe de signer une pétition au ministre de la guerre par laquelle il demandait sa réintégration dans les cadres de l'armée. Desroches promit aux deux femmes de suivre la pétition dans les bureaux de la guerre et de profiter du triomphe du duc sur Philippe chez la danseuse pour obtenir protection de ce grand seigneur. Avant 3 mois, il sera lieutenant-colonel dans le régiment du duc de Maufrigneuse, et vous serez débarrassé de lui. » Desroches s'en alla combler les bénédictions des deux femmes et de Joseph. Quant au journal, 2 mois après, selon les prévisions de Finot, il cessa de paraître. Ainsi, la faute de Philippe n'eut dans le monde aucune portée. Mais la maternité d'Agathe avait reçu la plus profonde blessure. Sa croyance en son fils, une fois ébranlée, elle vécut dès lors en des transes perpétuelles, mêlée de satisfaction quand elle voyait ses sinistres appréhensions trompées. Lorsque les hommes doués du courage physique, mais lâches et ignobles au moral, comme l'était Philippe, ont vu la nature des choses reprenant son cours autour d'eux après une catastrophe où leur moralité s'est à peu près perdue, cette complaisance de la famille ou des amitiés est pour eux une prime d'encouragement. Ils comptent sur l'impunité. Leur esprit faussé, leur passion satisfaite, les portent à étudier comment ils ont réussi à tourner les lois sociales. Et ils deviennent alors horriblement adroits. 15 jours après, Philippe, redevenu l'homme oisif, ennuyé, reprit donc fatalement sa vie de café, ses stations embellies de petits verres, ses longues parties de billard au punch, sa séance de nuit au jeu, où il risquait à propos une faible mise, et réalisait un petit gain qui suffisait à l'entretien de son désordre. En apparence économe, pour mieux tromper sa mère et le Descoings, il portait un chapeau presque crasseux, pelé sur le tour et au bord, des bottes rapiécées, une redingote râpée où brillait à peine sa rosette rouge, brunie par un long séjour à la boutonnière et salie par des gouttes de liqueur ou de café. Ses gants verdâtres en peau de daim lui duraient longtemps. Enfin, il n'abandonnait son col de satin qu'au moment où il ressemblait à le de la bourre. Mariette fut le seul amour de ce garçon. Aussi la trahison de cette danseuse lui endurcit-elle beaucoup le cœur. Quand par hasard il réalisait des gains inespérés, ou s'il soupait avec son vieux camarade Giroudeau, Philippe s'adressait à la Vénus des carrefours, par une sorte de dédain brutal pour le sexe entier. Régulier, d'ailleurs, il déjeunait, dînait au logis et rentrait toutes les nuits vers 1 heure. 3 mois de cette vie horrible rendirent quelque confiance à la pauvre Agathe. Quant à Joseph, qui travaillait au tableau magnifique auquel il dut sa réputation, il vivait dans son atelier. Sur la foi de son petit-fils, la Descoings, qui croyait à la gloire de Joseph, prodiguait au peintre des soins maternels. Elle lui portait à déjeuner le matin, elle faisait ses courses, elle lui nettoyait ses bottes. Le peintre ne se montrait guère qu'au dîner, et ses soirées appartenaient à ses amis du Cénacle. Il lisait, et d'ailleurs beaucoup, il se donnait cette profonde et sérieuse instruction que l'on ne tient que de soi-même, et à laquelle tous les gens de talent se sont livrés entre 20 et 30 ans. Agathe, voyant peu Joseph et sans inquiétude sur son compte, n'existait que par Philippe, qui seul lui donnait les alternatives de craintes soulevées, de terreurs apaisées qui sont un peu la vie des sentiments et tout aussi nécessaires à la maternité qu'à l'amour. Desroches, qui venait environ une fois par semaine voir la veuve de son ancien chef et ami, lui donnait des espérances. Le duc de Maufrigneuse avait demandé Philippe dans son régiment. Le ministre de la guerre se faisait faire un rapport, et comme le nom de Bridau ne se trouvait sur aucune liste de police, sur aucun dossier de palais, dans les premiers mois de l'année prochaine, Philippe recevrait sa lettre de service et de réintégration. Pour réussir, Desroches avait mis toutes ses connaissances en mouvement. Ses informations à la préfecture de police lui apprirent alors que Philippe allait tous les soirs au jeu et il jugea nécessaire de confier ce secret à la Descoings seulement, en l'engageant à surveiller le futur lieutenant-colonel, car un éclat pouvait tout perdre. Pour le moment, le ministre de la Guerre n'irait pas rechercher si Philippe était joueur. Or, une fois sous les drapeaux, le lieutenant-colonel abandonnerait une passion née de son désœuvrement. Agathe, qui le soir n'avait plus personne, lisait ses prières au coin de son feu, pendant que la Descoings se tirait les cartes, s'expliquait ses rêves et appliquait les règles de la cabale à ses mises. Cette joueuse obstinée ne manquait jamais un tirage. Elle poursuivait son terne qui n'était pas encore sorti. Ce terne allait avoir 21 ans. Il atteignait à sa majorité. La vieille actionnaire fondait beaucoup d'espoir sur cette puérile circonstance. L'un des numéros était resté au fond de toutes les roues depuis la création de la loterie. Aussi la Descoings chargeait-elle énormément ce numéro et toutes les combinaisons de ces trois chiffres. Le dernier matelas de son lit servait de dépôt aux économies de la pauvre vieille. Elle le décousait, y mettait la pièce d'or conquise sur ses besoins, bien enveloppée de laine, et le recousait après. Elle voulait, au dernier tirage de Paris, risquer toutes ses économies sur les combinaisons de son terne chéri. Cette passion, si universellement condamnée, n'a jamais été étudiée. Personne n'y a vu l'opium de la misère. La loterie, la plus puissante fée du monde, ne développe-t-elle pas des espérances magiques? Le coup de roulette qui faisait voir aux joueurs des masses d'or et de jouissance ne durait que de ce que dure un éclair, tandis que la loterie donnait 5 jours d'existence à ce magnifique éclair. Quelle est aujourd'hui la puissance sociale qui peut, pour 40 sous, vous rendre heureux pendant 5 jours et vous livrer idéalement tous les bonheurs de la civilisation? Le tabac, impôt 1000 fois plus immoral que le jeu, détruit le corps, attaque l'intelligence, il hébète une nation, tandis que la loterie ne causait pas le moindre malheur de ce genre. Cette passion était d'ailleurs forcée de se régler, et par la distance qui séparait les tirages et par la roue que chaque joueur affectionnait. La Descoings ne mettait que sur la roue de Paris. Dans l'espoir de voir triompher ce terne nourri depuis 20 ans, elle s'était soumise à d'énormes privations pour pouvoir faire en toute liberté sa mise du dernier tirage de l'année. Quand elle avait des rêves cabalistiques, car tous les rêves ne correspondaient point au nombre de la loterie, elle allait les raconter à Joseph, car il était le seul être qui l'écouta, non seulement sans la gronder, mais en lui disant de ces douces paroles par lesquelles les artistes consolent les folies de l'esprit. Tous les grands talents respectent et comprennent les passions vraies, ils ne se les expliquent, et on retrouve les racines dans le cœur ou dans la tête. Selon Joseph, son frère aimait le tabac et les liqueurs, sa vieille maman Descoings aimait les ternes et sa mère aimait Dieu. Desroches fils aimait les procès, Desroches père aimait la pêche à la ligne. Tout le monde, disait-il, aimait quelque chose. Il aimait, lui, le beau idéal en tout. Il aimait la poésie de Byron, la peinture de Géricault, la musique de Rossini, les romans de Walter Scott. « Chacun son goût, maman, s'écria-t-il. Seulement votre terne l'enterne beaucoup. Où il sortira? Tu seras riche, et mon petit Bixiou aussi. Donnez tout à votre petit-fils, s'écriait Joseph, au surplus, au fait comme vous voudrez. Et s'il sort, j'en aurai assez pour tout le monde. Toi d'abord, tu auras un bel atelier et tu ne te priveras pas d'aller aux Italiens pour payer tes modèles et ton marchand de couleurs. Sais-tu, mon enfant, lui dit-elle, que tu ne me fais pas jouer un beau rôle dans ce tableau-là? Par économie, Joseph avait fait poser la Descoings dans son magnifique tableau d'une jeune courtisane amenée par une vieille femme chez un sénateur vénitien. Ce tableau, un des chefs-d'œuvre de la peinture moderne, pris par Gros lui-même pour un Titien, prépara merveilleusement les jeunes artistes à reconnaître et à proclamer la supériorité de Joseph au salon de 1823. Ceux qui vous connaissent savent bien qui vous êtes, lui répondit-il gaiement, et pourquoi vous inquiéteriez-vous de ceux qui ne vous connaissent pas? Depuis une dizaine d'années, la Descoings avait pris les tons mûrs d'une pomme de Reinette à Pâques. Ses rides s'étaient formées dans la plénitude de sa chair, devenue froide et douillette. Ses yeux pleins de vie semblaient animés par une pensée encore jeune et vivace, qui pouvait d'autant mieux passer pour une pensée de cupidité, qu'il y a toujours quelque chose de cupide chez le joueur. Son visage grassouillet offrait les traces d'une dissimulation profonde et d'une arrière-pensée enterrée au fond du cœur. Sa passion exigeait le secret. Elle avait dans le mouvement des lèvres quelques indices de gourmandise. Aussi, quoique ce fût la probe et excellente femme que vous connaissez, l'œil pouvait-il s'y tromper? Elle présentait donc un admirable modèle de la vieille femme que Brideau voulait peindre. Coralie, jeune actrice d'une beauté sublime, morte à la fleur de l'âge, la maîtresse d'un jeune poète, un ami de Brideau, Lucien de Rubempré, lui avait donné l'idée de ce tableau. On accusa cette belle toile d'être un pastiche, quoiqu'elle fût une splendide mise en scène de trois portraits. Michel Chrétien, un des jeunes du Cénacle, avait prêté pour le sénateur sa tête républicaine, sur laquelle Joseph jeta quelques tons de maturité, de même qu'il força l'expression du visage de la Descoings. Ce grand tableau qui devait faire tant de bruit et qui suscita tant de haine, tant de jalousie et d'admiration à Joseph, était ébauché. Mais contraint d'en interrompre l'exécution pour faire des travaux de commande afin de vivre, il copiait les tableaux des vieux maîtres en se pénétrant de leurs procédés. Aussi sa bosse est-elle une des plus savantes. Son bon sens d'artiste lui avait suggéré l'idée de cacher à la Descoings et à sa mère les gains qu'il commençait à récolter en leur voyant à l'une et à l'autre une cause de ruine dans Philippe et dans la loterie. L'espèce de sang-froid déployé par le soldat dans sa catastrophe, le calcul caché sous le prétendu suicide et que Joseph découvrit, le souvenir des fautes commises dans une carrière qu'il n'aurait pas dû abandonner, enfin les moindres détails de la conduite de son frère, avaient fini par dessiller les yeux de Joseph. Cette perspicacité manque rarement aux peintres. Occupés pendant des journées entières, dans le silence de leurs ateliers à des travaux qui laissent jusqu'à un certain point la pensée libre, ils ressemblent un peu aux femmes. Leur esprit peut tourner autour des petits faits de la vie et en pénétrer le sens caché. Joseph avait acheté un de ces bahuts magnifiques, alors ignorés de la mode, pour en décorer un coin de son atelier où se portait la lumière qui papillotait dans les bas-reliefs en donnant tout son lustre à ce chef-d'œuvre des artisans du XVIe siècle. Il y reconnut l'existence d'une cachette et y accumulait un pécule de prévoyance. Avec la confiance naturelle aux vrais artistes, il mettait habituellement l'argent qu'il s'accordait pour sa dépense du mois dans une tête de mort placée sur une des cases du bahut. Depuis le retour de son frère au logis, il trouvait un désaccord constant entre le chiffre de ses dépenses et celui de cette somme. les 100 francs du mois disparaissaient avec une incroyable vitesse. En ne trouvant rien, après n'avoir dépensé que 40 à 50 francs, il se dit une première fois « Il paraît que mon argent a pris la poste ». Une seconde fois, il fit attention à ses dépenses, mais il eut beau compter comme Robert Macaire, 16 et 5 font 23, il ne s'y retrouva point. En s'apercevant pour la troisième fois d'une plus forte erreur, il communiqua ce sujet de peine à la vieille des coins, par laquelle il se sentait aimé de cet amour maternel, tendre, confiant, crédule, enthousiaste, qui manquait à sa mère, quelque bonne qu'elle fût, et tout aussi nécessaire au commencement de l'artiste que les soins de la poule à ses petits jusqu'à ce qu'ils aient des plumes. À elle seule, il pouvait confier ses horribles soupçons. Il était sûr de ses amis comme de lui-même. L'adéquat ne lui prenait certes pour rien pour mettre à la loterie. Et à cette idée qu'il exprima, la pauvre femme se tordit les mains. Philippe seul pouvait donc commettre ce petit vol domestique. « Mais pourquoi ne me demande-t-il pas ce dont il a besoin ?» s'écria Joseph en prenant de la couleur sur sa palette et brouillant tous les tons sans s'en apercevoir. « Mais lui refuserais-je de l'argent ?» « Mais c'est dépouiller un enfant !» s'écria la Descoings dont ce visage exprima la plus profonde horreur. « Non, reprit Joseph, il le peut. Il est mon frère, ma bourse est la sienne. Mais il devrait m'avertir. » Mais ce matin, une somme fixe en monnaie, et n'y touche pas, lui dit la Descoings. Je saurai qui vient à ton atelier. Et s'il n'y a que lui qui soit entré, tu auras une certitude. Le lendemain même, Joseph fut ainsi la preuve des emprunts forcés que lui faisait son frère. Philippe entrait dans l'atelier quand Joseph n'y était pas, et y prenait les petites sommes qui lui manquaient. L'artiste trembla pour son petit trésor. « Attends, je vais te pincer, mon gaillard, » dit-il à la Descoings en riant. « Et tu feras bien, nous devons le corriger, car je ne suis pas non plus sans trouver quelquefois du déficit dans ma bourse. Ben, le pauvre garçon, il faut du tabac, il en a l'habitude. »« pauvre garçon, » reprit l'artiste, « je suis un peu de l'avis de Fulgence et de Bixiou. » Philippe nous tire constamment aux jambes. Tantôt il se fourre dans les émeutes et il faut l'envoyer en Amérique. Il coûte alors 12 000 francs à notre mère. Il ne sait rien trouver dans les forêts du Nouveau Monde. Et son retour coûte autant que son départ. Sous prétexte d'avoir répété deux mots de Napoléon à un général, Philippe se croit un grand militaire et obligé de faire la grimace au Bourbon. En attendant, il s'amuse, il voyage, il voit du pays. Moi, je ne le donne pas dans la colle de ses malheurs, il n'a pas la mine d'un homme à ne pas être au mieux partout. On trouve à Montgaillard une excellente place, il mène une vie de sardane à pâle, avec une fille d'opéra, mange la grenouille d'un journal et coûte encore 12 000 francs à notre mère. Certes, pour ceux qui me regardent, je m'en bats l'œil, mais Philippe, mettre la pauvre femme sur la paille, il me regarde comme rien du tout parce que je n'ai pas été dans les dragons de la garde. Et c'est peut-être moi qui ferai vivre cette bonne chère mère dans ses vieux jours, tandis que s'il continue, ce soudard finira je ne sais comment. Bixiou me disait... « C'est un fameux forceur, ton frère. Eh bien, votre petit-fils a raison. Philippe inventera quelques frasques où l'honneur de la famille sera compromis. Il faudra trouver encore des 10 ou 12 000 francs. Il joue tous les soirs. Il laisse tomber sur l'escalier, quand il rentre sous comme un templier, des cartes piquées qui lui ont servi à marquer les tours de la rouge et de la noire. Le père Desroches se remue pour faire entrer Philippe dans l'armée, et moi je crois qu'il serait ma parole d'honneur au désespoir de resservir. Auriez-vous cru qu'un garçon qui a de si beaux yeux bleus, si limpide et un air de chevalier bayard, tournerait au sacripant ? Malgré la sagesse et le sang-froid avec lesquels Philippe jouait ses masses le soir, il éprouvait de temps en temps ce que les joueurs appellent des lessives. Poussé par l'irrésistible désir d'avoir l'enjeu de sa soirée, 10 francs, il faisait alors main basse dans le ménage sur l'argent de son frère, sur celui que la Descoings laissait traîner, ou sur celui d'Agathe. Une fois déjà, la pauvre veuve avait eu dans son premier sommeil une épouvantable vision. Philippe était entré dans sa chambre. Il y avait pris dans les poches de sa robe tout l'argent qui s'y trouvait. Agathe avait faim de dormir, mais elle avait alors passé le reste de la nuit à pleurer. Elle y voyait clair. « Oh, une faute n'est pas le vice », avait dit la Descoings. Mais, après de constantes récidives, le vice fut visible. Agathe n'en pouvait plus douter. Son fils le plus aimé n'avait ni délicatesse ni honneur. Le lendemain de cette affreuse vision, après le déjeuner, avant que Philippe ne partît, elle l'avait attiré dans sa chambre pour le prier, avec le ton de la supplication, de lui demander l'argent qui lui serait nécessaire. Et les demandes se renouvelèrent alors si souvent que depuis 15 jours, Agathe avait épuisé toutes ses économies. Elle se trouvait sans un liard. Elle pensait à travailler. Elle avait pendant plusieurs journées discuté avec la Descoings les moyens de gagner de l'argent par son travail. Déjà, la pauvre mère était allée demander de la tapisserie à remplir au père de famille, ouvrage qui donne environ 20 sous par jour. Malgré la profonde discrétion de sa nièce, la Descoings avait bien deviné le motif de cette envie de gagner de l'argent par un travail de femme. Les changements de la physionomie d'Agathe étaient d'ailleurs assez éloquents. Son frais visage se desséchait, la peau se collait aux tempes, aux pommettes, et le front se ridait. Les yeux perdaient de leur limpidité, évidemment, quelque feu intérieur la consumait. Elle pleurait pendant la nuit. Mais ce qui causait le plus de ravages était la nécessité de taire ses douleurs, ses souffrances, ses appréhensions. Elle ne s'endormait jamais avant que Philippe ne fût rentré. Elle l'attendait dans la rue. Elle avait étudié les variations de sa voix, de sa démarche, le langage de sa canne traînée sur le pavé. Elle n'ignorait rien. Elle savait à quel degré d'ivresse Philippe était arrivé, et elle tremblait en entendant trébucher dans les escaliers. Elle y avait une nuit ramassé des pièces d'or à l'endroit où il s'était laissé tomber. Quand il avait bu et gagné, sa voix était enrouée, sa canne traînait. Mais quand il avait perdu, son pas avait quelque chose de sec, de net, de furieux. Il chantonnait d'une voix claire et tenait sa canne en l'air au port d'armes. Au déjeuner, quand il avait gagné, sa contenance était gaie et presque affectueuse. Il badinait avec grossièreté, mais il badinait avec la Descoings, avec Joseph et avec sa mère. Sombre, au contraire, quand il avait perdu, sa parole brève et saccadée, son regard dur, sa tristesse effrayait. Cette vie de débauche et l'habitude des liqueurs changeaient de jour en jour cette physionomie jadis si belle. Les veines du visage étaient injectées de sang, les traits grossissaient, les yeux perdaient leurs cils et se desséchaient. Enfin, peu soigneux de sa personne, Philippe exhalait les miasmes de l'estaminet, une odeur de bottes boueuses qui, pour un étranger, eût semblé le sceau de la crapule. Vous devriez bien, dit l'Adéquat à Philippe, dans les premiers jours de décembre, vous faire faire des vêtements neufs de la tête aux pieds. Mais qui les paiera ? Répondit-il d'une voix aigre. Ma pauvre mère n'a plus le sou, moi j'ai 500 francs par an. Il faudrait un an de ma pension pour avoir des habits. J'ai engagé ma pension pour 3 ans. Et pourquoi ? Dit Joseph. Bah, une dette d'honneur. Giroudou avait pris 1000 francs à Florentine pour me les prêter. Je suis pas flambant, c'est vrai, mais quand on pense que Napoléon est à Sainte-Hélène et vend son argenterie pour vivre, les soldats qui lui sont fidèles peuvent bien marcher sur leurs tiges, dit-il en montrant ses bottes sans talons. Et il sortit. C'est pas un mauvais garçon, dit Agathe, il a de bons sentiments.
Bon, on peut aimer l'empereur et faire sa toilette, dit Joseph. S'il avait soin de lui-même et de ses habits, il n'aurait pas l'air d'un manu-pied.
Joseph, il faut avoir de l'indulgence pour ton frère, dit Agathe. Tu fais ce que tu veux, toi, tandis qu'il ne certes pas à sa place. Mais pourquoi l'a-t-il quitté ? Demanda Joseph. Qu'importe qu'il y ait les punaises de Louis XIII ou le coucou de Napoléon sur les drapeaux, si ces chiffons sont français. La France est la France. Je peindrai pour le diable, moi. Un soldat doit se battre s'il est soldat pour l'amour de l'art. Et s'il était resté tranquillement à l'armée, il serait général aujourd'hui. Oh, vous êtes injuste pour lui, dit Agathe. Ton père, qui adorait l'empereur, l'eût approuvé. Mais enfin, il consent à rentrer dans l'armée. Dieu connaît le chagrin que cause à ton frère ce qu'il regarde comme une trahison. Joseph se leva pour monter à son atelier. Mais Agathe le prit par la main et lui dit « Sois bon pour ton frère. Il est si malheureux. » Quand l'artiste revint à son atelier, suivi par l'Adéquat qui lui disait de ménager la susceptibilité de sa mère, en lui faisant observer combien elle changeait et combien de souffrances intérieures ce changement révélait, ils y trouvèrent Philippe, à leur grand étonnement. Joseph, mon petit, lui dit-il d'un air dégagé, j'ai bien besoin d'argent. Ah non, d'une pipe, je dois pour 30 francs de cigares à mon bureau de tabac, et je n'ose point passer devant cette maudite boutique sans les payer. Voici 10 fois que je les promets. Eh bien, j'aime mieux cela, répondit Joseph. Prends dans la tête. Mais j'ai tout pris hier soir après le dîner. Il y avait 45 francs. Eh oui, c'est bien mon compte, répondit Philippe, je les ai trouvés. Mais je m'en fais, reprit-il. Non, mon ami, non, répondit l'artiste. Si tu étais riche, je ferais comme toi. Seulement, avant de prendre, je te demanderai si cela te convient. « C'est bien humiliant de demander, » reprit Philippe. « J'aimerais mieux te voir prenant comme moi, sans rien dire. Il y a plus de confiance. À l'armée, un camarade meurt, il a une bonne paire de bottes, on en a une mauvaise, on change avec lui. »« Oui, mais
on ne lui prend pas quand il est vivant. Oh, de petitesse, reprit Philippe en haussant les épaules. Ah, si, tu n'as pas d'argent.
Non, dit Joseph, qui ne voulait pas montrer sa cachette.
Mais dans quelques jours, nous serons riches, dit la Descoings.
Oui, ah oui, vous croyez que votre terre ne sortira le 25 au tirage de Paris.
Il faudra que vous fassiez une fameuse mise si vous voulez vous enrichir tous.
Un terne sec de 100 francs donne 3 millions, sans compter les jambes et les extraits déterminés.
À 15 000 fois la mise, oui, c'est juste 200 francs qu'il vous faut, s'écria Philippe.
La Descoings se mordit les lèvres, elle avait dit un mot imprudent. En effet, Philippe se demandait dans l'escalier, « Mais où cette vieille sorcière peut-elle cacher l'argent de sa mise ?»«
C'est de l'argent perdu, je l'emploierai si bien. » Avec 4 masses de 50 francs, on peut gagner 200 000 francs. Et c'est un peu plus sûr que la réussite d'un terne.
Il cherchait en lui-même la cachette probable de la Descoings. La veille des fêtes, Agathe allait à l'église et y restait longtemps. Elle se confessait sans doute et se préparait à communier. On était à la veille de Noël. La Descoings devait nécessairement aller acheter quelques friandises pour le réveillon. Mais aussi peut-être ferait-elle en même temps sa mise. La loterie avait un tirage de 55 jours aux roues de Bordeaux, de Lyon, de Lille, de Strasbourg et de Paris. La loterie de Paris se tirait le 25 de chaque mois et les listes se fermaient le 24 à minuit. Le soldat étudia toutes ces circonstances et se mit en observation. Vers midi, Philippe revint au logis, d'où la Descoings était sortie, mais elle en avait emporté la clé. Oh, ce ne fut pas une difficulté. Philippe feignit d'avoir oublié quelque chose et pria la portière d'aller chercher elle-même un serrurier qui demeurait à deux pas rue Guénegaud et qui va t'ouvrir la porte. La première pensée du soudard se porta sur le lit. Il le défit, tâta les matelas avant d'interroger le bois, et au dernier matelas, il palpa les pièces d'or enveloppées de papier. Il eut bientôt décousu la toile, ramassé 20 napoléons. Puis, sans perdre la peine de recoudre la toile, il refit le lit avec assez d'habileté pour que la Descoings ne s'aperçût de rien. Le joueur détala d'un pied agile, en se proposant de jouer à 3 reprises différentes, de 3 heures en 3 heures, chaque fois pendant 10 minutes seulement. Les vrais joueurs, depuis 1786, époque à laquelle les jeux publics furent inventés, les grands joueurs que l'administration redoutait et qui ont mangé, selon l'expression des tripots, de l'argent à la banque, ne jouèrent jamais autrement. Mais avant d'obtenir cette expérience, on perdait des fortunes. Toute la philosophie des fermiers et leurs gains venait de l'impassibilité de leurs caisses, des coups égaux appelés leurs refaits, dont la moitié restait acquise à la banque, et de l'insigne mauvaise foi autorisée par le gouvernement, qui consistait à ne tenir à ne payer que facultativement les enjeux des joueurs. En un mot, le jeu, qui refusait la partie du joueur riche et de sang-froid, dévorait la fortune du joueur assez sottement entêté pour se laisser griser par le rapide mouvement de cette machine. Les tailleurs du 30 et 40 allaient presque aussi vite que la roulette. Philippe avait fini par acquérir ce sang-froid de général en chef qui permet de conserver l'œil clair et l'intelligence nette au milieu du tourbillon des choses. Il était arrivé à cette haute politique du jeu qui, disons-le en passant, faisait vivre à Paris 1 millier de personnes assez fortes
pour contempler tous les soirs un abîme sans avoir le vertige. Avec ses 400 francs, Philippe résolut de faire fortune dans cette journée. Il mit en réserve 200 francs dans ses bottes et garda 200 francs dans sa poche. À 3 heures, il vint au salon, maintenant occupé par le théâtre du Palais-Royal, où les banquiers tenaient les plus fortes sommes. Il sortit une demi-heure après, riche de 7 000 francs. Il alla voir Florentine, à laquelle il devait 500 francs. Il les lui rendit et lui proposa de souper au rocher de Cancale après le spectacle. En revenant, il passa rue du Sentier au bureau du journal prévenir son ami Giroudeau du gala projeté. À 6 heures, Philippe gagna 25 000 francs et sortit au bout de 10 minutes en se tenant parole. Le soir, à 10 heures, il avait gagné 75 000 francs. Après le souper qui fut magnifique, ivre et confiant, Philippe revint au jeu vers minuit. À l'encontre de la loi qu'il s'était imposée, il joua pendant 1 heure et doubla sa fortune. Les banquiers à qui, par sa manière de jouer, il avait extirpé 150 000 francs, le regardaient avec curiosité. Sortira-t-il, restera-t-il, se disait-il par un regard. Oh, s'il reste, il est perdu. Philippe crut être dans une veine de bonheur et resta. Vers 3 heures du matin, les 150 000 francs étaient rentrés dans la caisse des jeux. L'officier, qui avait considérablement bu du grog en jouant, sorti dans un état d'ivresse que le froid par lequel il fut saisi porta au plus haut degré. Mais un garçon de salle le suivit, le ramassa et le conduisit dans une de ces horribles maisons à la porte desquelles se lisent ces mots sur un réverbère « Ici on loge à la nuit ». Le garçon paya pour le joueur ruiné qui fut mis tout habillé sur un lit où il demeura jusqu'au soir de Noël. L'administration des jeux avait des égards pour ses habitués et pour les grands joueurs. Philippe ne s'éveilla qu'à 7 heures, la bouche pâteuse, la figure enflée et en proie à une fièvre nerveuse. Mais la force de son tempérament lui permit de gagner à pied la maison paternelle, où il avait, sans le vouloir, mis le deuil, la désolation, la misère et la mort. La veille, lorsque son dîner fut prêt, la Descoings et Agathe attendirent Philippe pendant environ 2 heures. On ne se mit à table qu'à 7 heures. Agathe se couchait presque toujours à 10 heures. Mais comme elle voulait assister à la messe de minuit, elle alla se coucher aussitôt après le dîner. La Descoings et Joseph restèrent seuls au coin du feu, dans ce petit salon qui servait à tout, et la vieille femme le pria de lui calculer sa fameuse mise, sa mise monstre sur le célèbre terne. Elle voulait jouer les ambes et les extraits déterminés afin de réunir toutes les chances. Après avoir bien savouré la poésie de ce coup, avoir versé les 2 cornes d'abondance aux pieds de son enfant d'adoption et lui avoir raconté ses rêves en démontrant la certitude du gain, en ne s'inquiétant que de la difficulté de soutenir un pareil bonheur, de l'attendre depuis minuit jusqu'au lendemain 10 heures, Joseph, qui ne voyait pas les 400 francs de la mise, s'avisa d'en parler. La vieille femme sourit et l'emmena dans l'ancien salon devenu sa chambre. « Tu vas voir, » dit-elle. La Descoings défit assez précipitamment son lit et chercha ses ciseaux pour découdre le matelas,
Elle prit ses lunettes, examina la toile, la vit défaite, et lâcha le matelas. En entendant jeter à cette vieille femme un soupir venu des profondeurs de la poitrine, et comme étranglé par le sang qui se porta au cœur, Joseph tendit instinctivement les bras à la vieille actionnaire de la loterie et la mit sur un fauteuil, évanoui, en criant à sa mère de venir. Agathe se leva, mit sa robe de chambre, accourut, et à la lueur d'une chandelle, elle fit à sa tante évanouie les remèdes vulgaires, de l'eau de Cologne aux tempes, de l'eau froide au front. Elle lui brûla une plume sous le nez et la vit enfin revenir à la vie.
Et ils y étaient ce matin, mais il les a pris, le monstre.
Quoi ? Dit Joseph.
J'avais 20 louis dans mon matelas, mes économies de 2 ans. Philippe seul a pu les prendre.
Mais quand ? S'écria la pauvre mère accablée. Il n'est pas revenu depuis le déjeuner.
Oh, je voudrais bien me tromper, s'écria la vieille. Mais ce matin dans l'atelier de Joseph, quand j'ai parlé de ma mise, j'ai eu un pressentiment. J'ai eu tort de ne pas descendre prendre mon petit Saint-Frusquin pour faire ma mise à l'instant. Je le voulais, je ne sais plus ce qui m'en a empêché. Oh, mon Dieu, oui, je suis allé lui acheter des cigares.
Mais, dit Joseph, l'appartement était fermé. Oh, d'ailleurs, c'est si infâme que je ne puis y croire. Philippe vous aurait espionné. Il aurait décousu votre matelas. Il aurait prémédité. Oh, non.
Je les ai sentis ce matin en faisant mon lit. « Après le déjeuner, » répéta la Descoings.
Agathe, épouvantée, descendit, demanda si Philippe était revenu pendant la journée, et la portière lui raconta le roman de Philippe. La mère, frappée au cœur, revint entièrement changée. Aussi blanche que la percale de sa chemise, elle marchait, comme on se figure que doivent marcher les spectres, sans bruit, lentement, et par l'effet d'une puissance surhumaine, et cependant presque mécanique. Elle tenait un bougeoir à la main qui l'éclairait en plein et montra ses yeux fixes d'horreur. Sans qu'elle le sût, ses cheveux s'étaient éparpillés par un mouvement de ses mains sur son front. Et cette circonstance la rendait si belle d'horreur que Joseph resta cloué par l'apparition de ce remords, par la vision de cette statue de l'épouvante et du désespoir.
« Ma tante, dit-elle, prenez mes couverts, j'en ai 6, cela fait votre somme, car je l'ai prise pour Philippe, j'ai cru pouvoir la remettre avant que ne vous en aperçussiez. Oh, oh, j'ai bien souffert. »
Elle s'assit, ses yeux secs et fixes vacillèrent alors un peu.
« C'est lui qui a fait le coup ?»
dit la Descoings tout bas à Joseph.
« Non, 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 reprit Agathe, prenez mes couverts, vendez-les, ils me sont inutiles. » Nous mangeons avec les vôtres. »
Elle alla dans sa chambre, prit la boîte à couverts, la trouva légère, l'ouvrit, et y vit une reconnaissance du mot de piété. La pauvre mère jeta un horrible cri. Joseph et la Descoings coururent, regardèrent la boîte, et le sublime mensonge de la mère devint inutile. Tous trois restèrent silencieux en évitant de se jeter un regard. En ce moment, par un geste presque fou, Agathe se mit un doigt sur les lèvres pour recommander le secret que personne ne voulait divulguer. Et tous trois, ils revinrent devant le feu dans le salon.
« Tenez, mes enfants,
s'écria la Descoings, je suis frappé au cœur.
Mon terne sortira, j'en suis sûr. Je ne pense plus à moi, mais à vous deux.
Philippe, dit-elle à sa nièce, c'est un monstre.
Il ne vous aime point, malgré tout ce que vous faites pour lui. Si vous ne prenez pas de précautions contre lui, le misérable vous mettra sur la paille.
Promettez-moi de vendre vos rentes, d'en réaliser le capital et de le placer en viager.
Joseph a un bon état qui le fera vivre.
En prenant ce parti, ma petite, vous ne serez jamais à la charge de Joseph.
Monsieur Desroches veut établir son fils. Le petit Desroches, il avait alors 26 ans, a trouvé une étude. Il vous prendra vos 12 000 francs à rente viagère.
Joseph saisit le bougeoir de sa mère et monta précipitamment à son atelier. Il revint avec 300 francs.
« Tenez, maman Descoings, lui dit-il, en lui offrant son pécule. Nous n'avons pas à rechercher ce que vous faites de votre argent. Nous vous devons celui qui vous manque, et le voici presque en entier.
Prendre ton pauvre petit magot, le fruit de tes privations qui me font tant souffrir, mais es-tu fou, Joseph ?
S'écria la vieille actionnaire de la Loterie Royale de France, visiblement partagée entre sa foi brutale en son terne et cette action qui lui semblait un sacrilège.
Oh, faites-en ce que vous voudrez, dit Agathe, que le mouvement de son vrai fils émut aux larmes.
La Descoings prit Joseph par la tête et le baisa sur le front.
Mon enfant, ne me tente pas. Tiens, je perdrais encore. C'est des bêtises, la loterie.
Jamais rien de si héroïque n'a été dit dans les drames inconnus de la vie privée. Et en effet, n'est-ce pas l'affection triomphante d'un vice invétéré ? En ce moment, les cloches de la messe de minuit sonnèrent.
« Et puis, il n'est plus temps, » reprit la Descoings.
« Oh, dit Joseph, voilà vos calculs de cabale. »
Le généreux artiste sauta sur les numéros, s'élança dans l'escalier et courut faire la mise. Quand Joseph ne fut plus là, Agathe et la Descoings fondirent en larmes.
« Il y va, le cher amour !» s'écriait la joueuse. « Mais ce sera tout pour lui, car c'est son argent. »
Malheureusement, Joseph ignorait entièrement la situation du bureau de loterie que dans ce temps les habitués connaissaient dans Paris comme aujourd'hui les fumeurs connaissent les débits de tabac. Le peintre alla comme un fou, regardant les lanternes. Et lorsqu'il demanda à des passants de lui enseigner un bureau de loterie, on lui répondit qu'ils étaient fermés, mais que celui du Perron au Palais Royal restait quelquefois ouvert un peu plus tard. Aussitôt l'artiste vola vers le Palais Royal, où il trouva le bureau fermé.
Deux minutes de moins, vous auriez pu faire votre mise, lui dit un des crieurs de billets, qui stationnait au bas du perron en vociférant ses singulières paroles. « 1 200 francs pour 40 sous !» et offrant des billets tout faits.
À la lueur du réverbère et des lumières du café de la Rotonde, Joseph examina si par hasard il y aurait sur ses billets quelques-uns des numéros de la Descoings, mais il n'en vit pas un seul. Et revint avec la douleur d'avoir fait en vain tout ce qui dépendait de lui pour satisfaire la vieille femme à laquelle il raconta ses disgrâces. Agathe et sa tante allèrent ensemble à la messe de minuit à Saint-Germain-des-Prés. Joseph se coucha. Le réveillon n'eut pas lieu. La Descoings avait perdu la tête. Agathe avait au cœur un deuil éternel. Les deux femmes se levèrent tard. 10 heures sonnèrent quand la Descoings essaya de se remuer pour faire le déjeuner, qui ne fut prêt qu'à 11h30. Vers 7h, des cadres oblongs appendus au-dessus de la porte des bureaux de loterie contenaient les numéros sortis. Si la Descoings avait eu son billet, elle serait allée à 9h30 rue Neuve des Petits Champs, savoir son sort, qui se décidait dans un hôtel contigu au ministère des Finances et dont la place est maintenant occupée par le théâtre et la place Ventadour. Tous les jours de tirage, les curieux pouvaient admirer à la porte de cet hôtel un attroupement de vieilles femmes, de cuisinières et de vieillards qui, dans ce temps, formait un spectacle aussi curieux que celui de la queue des rentiers le jour du paiement des rentes au trésor. « Eh bien, vous voilà richissime !» s'écria le vieux Desroches en entrant au moment où la Descoings savourait sa dernière gorgée de café.
« Comment ?»
s'écria la pauvre Agathe.
« Mais Sauterne est sorti » dit-il,
en présentant la liste des numéros écrits sur un petit papier et que les buralistes mettaient par centaines dans une sébile sur leur comptoir. Joseph lut la liste, Agathe lut la liste, la Descoings ne lut rien. Elle fut renversée comme par un coup de foudre. Au changement de son visage, au cri qu'elle jeta, le vieux Desroches et Joseph la portèrent sur son lit. Agathe alla chercher un médecin. L'apoplexie foudroyait la pauvre femme, qui ne reprit sa connaissance que vers les 4h du soir. Le vieil Audry, son médecin, annonça que, malgré ce mieux, elle devait penser à ses affaires et à son salut. Elle n'avait prononcé qu'un seul mot.
3 millions.
Desroches, le père, mis au fait des circonstances, mais avec les réticences nécessaires par Joseph, cita plusieurs exemples de joueurs à qui la fortune avait échappé le jour où ils avaient par fatalité oublié de faire leur mise. Mais il comprit combien un pareil coup devait être mortel quand il arrivait après 20 ans de persévérance. À 5h, au moment où le plus profond silence régnait dans ce petit appartement et où la malade, gardée par Joseph et par sa mère, assis l'un au pied, l'autre au chevet du lit, attendait son petit-fils que le vieux Desroches était allé chercher, le bruit des pas de Philippe et celui de sa canne retentir dans l'escalier.
Le voilà, le voilà!
S'écria la Descoings qui se mit sur son séant et put remuer sa langue paralysée. Agathe et Joseph furent impressionnés par le mouvement d'horreur qui agitait si vivement la malade. Leur pénible attente fut entièrement justifiée par le spectacle de la figure bleuâtre et décomposée de Philippe, par sa démarche chancelante, par l'état horrible de ses yeux profondément cernés, ternes et néanmoins hagards. Il avait un violent frisson de fièvre, ses dents claquaient. « Misère en Prusse ! » s'écria-t-il. « Ni pain, ni pâte, et j'ai le gosier en feu. »« Eh bien, qu'y a-t-il ? Le diable se mêle toujours de nos affaires. »« Ma vieille Descoings est au lit et me fait des yeux grands comme des soucoupes. »«
Taisez-vous, monsieur, » lui dit Agathe en se levant. « Et respectez au moins le malheur que vous avez causé. »«
Oh, monsieur !» dit-il en regardant sa mère. Ma chère petite mère, ce n'est pas bien. Vous n'aimez donc plus votre garçon.
Êtes-vous digne d'être aimé? Ne vous souvenez-vous plus de ce que vous avez fait hier? Aussi pensez à chercher un appartement. Vous ne demeurez plus avec nous. À compter de demain, reprit-elle. car dans l'état où vous êtes, il est bien difficile.
De me chasser, n'est-ce pas ? Reprit-il.
Oh, mais vous jouez ici le mélodrame du fils banni.
Tiens, tiens, voilà comment vous prenez les choses.
Eh bien, vous êtes tous de jolis cocos.
Qu'ai-je donc fait de mal ?
J'ai pratiqué sur les matelas de la veille un petit nettoyage.
L'argent ne se met pas dans la laine, que diable ! Et où est le crime ?
Ne vous a-t-elle pas pris 20 000 francs, elle ? Ne sommes-nous pas ses créanciers ?
Je me suis remboursé d'autant, et voilà.
Mon Dieu !» cria la mourante en joignant les mains et priant.
Tais-toi ! S'écria Joseph en sautant sur son frère et lui mettant la main sur la bouche.
Au quart de conversion par le flanc gauche, moutarde de peintre ! Répliqua Philippe en mettant sa forte main sur l'épaule de Joseph, qu'il fit tourner et tomber sur une bergère.
« On ne touche pas comme ça la moustache d'un chef d'escadron au dragon de la garde impériale. »«
Mais elle m'a rendu tout ce qu'elle me devait !» s'écria Agathe en se levant et montrant à son fils un visage irrité.
« D'ailleurs, cela ne regarde que moi, vous la tuez. »«
Sortez, mon fils » dit-elle, en faisant un geste qui usa ses forces. « Et ne me reparaissez plus jamais devant moi, vous êtes un monstre !»«
Je la tue ?»«
Mais son terme est sorti !» cria Joseph, « et tu lui as volé l'argent de sa mise !»«
Bon, si elle crève d'un terme rentré, c'est donc pas moi qui la tue !» répondit l'ivrogne.
« Mais sortez donc, dit Agathe, vous me faites horreur. Vous avez tous les vices. Mon Dieu, est-ce mon fils ?»
Un râle sourd, parti du gosier de la Descoings, avait accru l'irritation d'Agathe.
« Mais je vous aime bien encore, vous, ma mère, qui êtes la cause de tous mes malheurs, dit Philippe. Vous me mettez à la porte un jour de Noël jour de naissance de... comment s'appelle-t-il, de Jésus.
Mais qu'aviez-vous fait à grand-papa Rouget, à votre père, pour qu'il vous chassât et vous déshéritât?
Si vous ne lui aviez pas déplu, vous auriez été riche, et on n'aurait pas été réduit à la dernière des misères.
Qu'avez-vous fait à votre père, vous qui êtes une bonne femme?
Vous voyez bien que je puis être un bon garçon, et tout de même être mis à la porte, moi, la gloire de la famille.
La honte ! Cria la Descoings.
Tu sortiras ou tu me tueras ! S'écria Joseph, qui s'élança sur son frère avec une fureur de lion.
Mon Dieu, dit Agathe en se levant et voulant séparer les deux frères.
En ce moment, Bixiou et Audry, le médecin, entrèrent. Joseph avait terrassé son frère, elle avait couché par terre.
« C'est une vraie bête féroce, dit-il. Ne parle pas où je te... »«
Bon, je me souviendrai de cela, meuglait Philippe. »«
Une explication en famille, dit Bixiou. »«
Relevez-le, dit le médecin, il est aussi malade que la bonne femme. » « Déshabillez-le, couchez-le et tirez-lui ses bottes. »«
Facile à dire, s'écria Bixiou, mais il faut les lui couper. Ses jambes sont trop enflées. »
Agathe prit une paire de ciseaux. Quand elle eut fendu les bottes, qui dans ce temps se portaient haut par-dessus les pantalons collants, 10 pièces d'or roulèrent sur le carreau.
« Le voilà, son argent !» dit Philippe en murmurant. « Satanée bête que je suis, j'ai oublié la réserve. Et moi aussi, j'ai raté la fortune. »
Le délire d'une horrible fièvre saisit Philippe, qui se mit à extravaguer. Joseph, aidé par des Rochepères qui survint, et par Bixiou, put donc transporter ce malheureux dans sa chambre.
Le docteur Audry fut obligé d'écrire un mot pour demander à l'hôpital de la Charité une camisole de force, car le délire s'accrut au point de faire craindre que Philippe ne se tuât. Il devint furieux. À 9 heures, le calme se rétablit dans le ménage. L'abbé Loraux et Desroches essayaient de consoler Agathe qui ne cessait de pleurer au chevet de sa tante. Elle écoutait en secouant la tête et gardait un silence obstiné. Joseph et la Descoings connaissaient seuls la profondeur et l'étendue de sa plaie intérieure.
« Il se corrigera, ma mère, » dit enfin Joseph, quand Desroches-Père et Bixiou furent partis. « Oh, oh !» s'écria la veuve, « Philippe a raison, mon père m'a maudite. Je n'ai pas le droit de... »« Le voilà, l'argent, » dit-elle à la Descoings, en réunissant les 300 francs de Joseph et les 200 francs trouvés sur Philippe. « Va voir s'il ne faut pas boire à ton frère, » dit-elle à Joseph. « Tiendrez-vous une promesse faite à un lit de mort ?» dit la Descoings, qui sentait son intelligence près de lui échapper.
Oh « Oui, ma tante.
Eh bien, jurez-moi de donner vos fonds en viager au petit Desroches. Marande va vous manquer, et d'après ce que je vous entends dire, vous vous laisseriez gruger jusqu'au dernier sou par ce misérable. Je vous le jure, ma tante. »
La vieille épicière mourut le 31 décembre, 5 jours après avoir reçu l'horrible coup que le vieux Desroches lui avait innocemment porté. Les 500 francs, le seul argent qu'il eut dans le ménage, suffirent à peine à payer les frais de l'enterrement de la veuve Descoings. Elle ne laissait qu'un peu d'argenterie et de mobilier, dont la valeur fut donnée à son petit-fils par Madame Brideau. Réduite à 800 francs de rente viagère, que lui fit Desroches fils, qui traita définitivement d'un titre nu, c'est-à-dire d'une charge sans clientèle, et qui prit alors ce capital de 12 000 francs. Agathe rendit au propriétaire son appartement au 3e étage et vendit tout le mobilier inutile. Quand, au bout d'un mois, le malade entra en convalescence, Agathe lui expliqua froidement que les frais de la maladie avaient absorbé tout l'argent comptant. Elle serait obligée désormais de travailler pour vivre. Elle l'engagea donc de sa manière la plus affectueuse à reprendre du service et à se suffire à lui-même.
Vous auriez pu vous épargner ce sermon, dit Philippe en regardant sa mère d'un œil qu'une complète indifférence rendait froid. « J'ai bien vu que ni vous ni mon frère, vous ne m'aimez plus. Je suis maintenant seul au monde, j'aime mieux cela.
Mais rendez-vous digne d'affection, répondit la pauvre mère atteinte jusqu'au fond du cœur, et nous vous rendrons la nôtre.
Oh, des bêtises !» s'écria-t-il en interrompant. Il prit son vieux chapeau pelé sur les bords, sa canne, se mit le chapeau sur l'oreille et descendit les escaliers en sifflant.
« Mais Philippe, où vas-tu sans argent ?» lui cria sa mère qui ne put réprimer ses larmes. « Tiens !»
Elle lui tendit 100 francs en or enveloppés d'un papier. Philippe remonta les marches qu'il avait descendues et prit l'argent.
« Eh bien, tu ne m'embrasses pas ?» dit-elle en fondant en larmes.
Il serra sa main, berce sur son cœur, mais sans cette effusion de sentiments qui donne seul du prix à un baiser.
« Et où vas-tu ? » lui dit Agathe.
Chez Florentine, la maîtresse à Giroudeau. En voilà, des amis, répond-il brutalement.
Il descendit. Agathe rentra, les jambes tremblantes, les yeux obscurcis, le cœur serré. Elle se jeta à genoux, pria Dieu de prendre cet enfant dénaturé sous sa protection et abdiqua sa pesante maternité.